Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Aujourd'hui, nous allons parler du judaïsme et sexualité, puisque nous sommes dans notre série Sexualité et spiritualité, que nous avons chevauché allègrement le 31 décembre, et que nous abordons donc successivement des points de vue de certaines religions, pas toutes, mais quand même les principales, autour de cette thématique de la sexualité et la spiritualité. Pour ce faire, nous sommes en compagnie du rabbin Florian Chinsky, bonsoir.
Bonsoir.
Et de Daniel Siboni, philosophe, psychanalyste, bien connu pour ses ouvrages, puisqu'il en a fait un certain nombre, dont le dernier, je dirais, que je vous invite à lire, c'est Un amour radical, croyance et identité chez Odile Jacob. Daniel Siboni, philosophe, psychanalyste, écrivain bien sûr, mais aussi mathématicien, ce qui m'a toujours beaucoup plu d'ailleurs. Voilà. Vous avez fait, en dehors donc de tous ces écrits et des réflexions personnelles dans les conférences les uns les autres, et puis sur vos blogs, puisque vous avez chacun une façon moderne de vous contacter, de dialoguer, YouTube pour Daniel Siboni, et puis le site web rabbinchinsky.fr en ce qui vous concerne. Alors tout d'abord, un rabbin femme, on revient là-dessus, est-ce que c'est pas déjà une transgression sexuelle ça?
Alors un rabbin femme, effectivement, c'est quelque chose qui pose question aujourd'hui, qui est d'une certaine façon
pourquoi ça l'a
une
pas posé, ça l'a pas posé au début? Il y avait des rabbins femmes?
En réalité, l'institution rabbinique elle-même, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existait pas du tout de la même façon il y a 500 ou il y a 1000 ans. Les personnes importantes à l'époque étaient le responsable de l'école rabbinique d'un côté et le responsable du tribunal rabbinique de l'autre. Donc il y avait la yeshiva, l'étude d'un côté, et la gestion des problèmes quotidiens de l'autre, des problèmes de loi et de halakha. Donc aujourd'hui, que fait un rabbin? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'enseignement, quelque chose de l'ordre de l'accompagnement des personnes, du conseil également sur la vie pratique. Et donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui de ce point de vue-là, ce que font les rabbins d'aujourd'hui dans les communautés. C'est quelque chose qui, en principe, c'est important de le souligner, est accessible à chaque juif, donc un petit enfant qui passe à l'adolescence. En termes de rituel de passage, il fait sa bar mitzvah, chez nous également sa bat mitzvah pour les filles. Ça veut dire qu'il prend la responsabilité de lire dans la Torah, de faire un enseignement, de diriger une partie de la prière, toutes choses qui, dans la tradition juive, ne sont pas...
Ça j'entends bien, mais disons que c'est le travail de tout rabbin. Mais moi, j'insistais là sur le côté féminin de la fonction, puisqu'il n'y a quand même pas beaucoup de rabbines ou de femmes rabbins.
De notre point de vue, au mouvement juif libéral de France, il n'y a pas de différence de pratique. Alors, on a trois rabbins au MJLF, le rabbin Yann Boissière, le rabbin Delphine Orwiller et moi-même. Et nos pratiques sont totalement équivalentes.
Alors, vous avez écrit un travail sur les représentations sociales de la loi juive et sa flexibilité. Et vous venez de publier les grandes figures de la Bible chez Taillandier. Nous voilà donc au cœur du sujet, la Bible, l'Ancien Testament, ce qui est écrit, ce qui est dit. Et ensuite, on va avoir, comme dans toutes les émissions d'ailleurs que nous avons eues, que ce soit dans l'idéologie catholique, musulmane et bouddhiste même, et juive, nous sommes en face d'interprétations aussi de ce qui est dit dans les écrits. Et on voit que il y a des variantes importantes et plutôt qu'on tire... Bon, c'est pas par hasard aussi, j'invite peut-être aussi des courants progressistes dans tous ces grands courants de religieux. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous poser la question à l'un ou à l'autre. Est-ce que l'Ancien Testament commence par énumérer, ou est-ce qu'on retrouve un certain nombre de contradictions, d'interdictions plus exactement, de la sexualité, de formes de sexualité? Alors j'avais envie de dire, prenons par exemple Sodome et Gomorre, l'histoire de Lot et de ses filles.
Pour Sodome et Gomorre, effectivement, c'est un thème très important parce que d'après la Bible et d'après les commentaires rabbiniques, c'est important de souligner que la façon juive de lire la Bible est très spécifique. On met les lunettes de la Torah orale pour lire la Torah écrite. Le problème de Sodome et Gomorrhe, c'est un refus d'accueil de l'étranger. C'est un cynisme absolu dans l'accueil de l'étranger. C'est pas du tout une question d'ordre sexuel qui est évoquée. Ce qui est évoqué, certainement, il y a une volonté d'emprise des habitants de Sodome et Gomorrhe sur les étrangers. Mais en fin de compte, c'est vraiment la question de l'accueil et du cynisme. On raconte que chez tous les habitants de Sodome et Gomorrhe, quand il y avait un pauvre, pour se montrer généreux, donner une petite pièce et mettaient leur nom dessus, mais par contre, ils ne donnaient pas à manger à la personne, et ils ne lui vendaient pas à manger, donc quand la personne était morte, on récupérait, chacun récupérait sa pièce. C'est vraiment le comble du cynisme. C'est le Talmud qui raconte
ça. Oui, ça. C'est pourquoi Sodome et Gomorrhe vont être condamnés.
Donc la destruction de Sodome et Gomorrhe est liée à un refus de relation à l'autre, et pas à des questions sexuelles.
Et pas à des questions sexuelles, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, quand Lot part, je dirais pour éviter la colère divine qui va tomber sur la région, et qu'il va perdre sa femme d'ailleurs, puisque elle va se retourner pour voir ce qui était interdit et devient et du coup est transformée en statue de sel. Mais moi, c'est la suite, moi, qui me pose
la
problème.
La transgression du tabou de l'inceste.
Voilà. C'est que Lot, ouais, quand même, avec ses deux filles, il va faire quand même deux enfants qui vont donner lieu à la naissance de Moab et de Ben-Ami. Alors, comment on se trouve avec cette... ça, c'est une interdiction quand même lourde, l'inceste.
Une transgression très, très importante.
Que dit le psychanalyste sur cette transgression ?
Je croyais qu'on était là pour parler de sexe.
L'inceste,
en sexualité. Et si on évoque la Bible, je pense que ce serait très réducteur de voir ce qui est conforme, ce qui n'est pas conforme, parce que quand la Bible, c'est un roman géant qui déploie la trame de l'existence humaine dans ses singularités. Il y a quelques passages, quelques pages très précises où figurent des interdits sexuels, allant jusqu'à « ne couche pas avec la femme de ton père, qui n'est pas ta mère, car c'est la nudité de ton père, c'est-à-dire de ta mère. » Donc il y a des interdits très précis, mais je crois que là, c'est un aspect très limité de la Bible, et je pense que la Bible, c'est peut-être le seul livre, disons, oui, spirituel, historique, légal, etc., qui décrit une certaine réalité. Et il se trouve qu'elle est sexuelle dès le début. On peut lire, chacun lit à son niveau. Il peut lire la naissance d'Ève comme elle est née de la côte d'Adam, donc la femme est née de l'homme, etc. Il peut lire, s'il lit par exemple mon interprétation dans mes lectures bibliques, que la fameuse naissance d'Ève, c'est un rapport sexuel parfaitement bien décrit, avec la dimension onirique, l'érection, etc. Parfois, la lecture, donc, est très secrète, etc., demande de l'interprétation. Parfois, elle est très violente et très nette. Ce qui est amusant dans cet épisode de l'inceste avec les filles de Lot que vous citez, et ce qui m'a toujours plu, c'est que elles y vont, elles disent « il n'y a pas d'homme ». Il n'y a pas d'homme dans le coin.
Il faut une descendance, il n'y a pas d'homme, bon. Donc on va prendre du vin, voilà. Et on va s'occuper de notre père.
Il n'y a pas d'homme, ça, c'est presque un mot d'ordre d'une certaine hystérie. Ça veut dire que ça parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le nombre de femmes qui vous disent « il n'y a pas d'homme » est un nombre très très important. Donc ce sont des femmes...
Il y a des hommes, mais il n'y a pas de prince charmant.
Voilà, ou il n'y a pas l'homme qu'il faut, voilà. Bon. Donc, elles disent, il n'y a pas d'homme, on va l'enivrer pour, justement, qu'il ne soit pas responsable. Donc, il y a un soin qui est pris pour le père. Et ensuite, c'est l'aîné qui y va la première. C'est quand même assez gonflé. C'est-à-dire, il y a l'inceste, mais sous un certain signe symbolique. C'est amusant. Ce que je veux dire par là, c'est que pratiquement chaque fois que le sexe est impliqué dans la Bible, il y a toujours une dimension symbolique, il y a toujours une quête du tiers, du rapport à l'être, du rapport au divin, et c'est donc en plein dans votre titre, sexualité et spiritualité. Ça veut dire...
Ce que je voulais dire à la lecture de cette livre, que vous commentez fort bien, Daniel Sivoni, c'est qu'on retrouve quand même les grandes thématiques fortes des interdictions, que ce soit l'inceste, que ce soit l'adultère. Je trouve que l'histoire de David et Bethsabée, qui va avoir un enfant, lequel va mourir au bout de 7 jours, c'est la malédiction, je veux dire, d'avoir un enfant dehors du mariage. Il y a les agressions sexuelles des femmes avec Suzanne et les vieillards. Il y a l'ivresse de Noé avec la nudité des fils et du père.
Il y a du sexe partout.
Il y a beaucoup de sexe, et du sexe et de la reproduction, puisqu'après on va se heurter à ce problème qui est que... est-ce qu'on a une relation sexuelle? Et ça va être une des questions fondamentales, et je vais me tourner vers vous, Florian Chinsky. Sexe pour le plaisir ou pour la procréation? Est-ce qu'il y a un commandement?
Absolument, tout à fait. Il y a deux commandements, le sexe pour la reproduction et le sexe pour le plaisir. Les deux existent. Les deux sont importants. Et puisqu'on a fait une incursion dans les autres parties de la Bible, alors on peut rappeler qu'un des descendants de l'union de Lot et de sa fille, et le peuple s'appellera Moab, qui veut dire qui vient du père, et qu'en répercussion de cette difficulté, il y aura un interdit de mariage entre les enfants d'Israël et les descendants de Moab. Mais cet interdit sera dépassé et sublimé à travers le fait que Ruth, qui vient de Moab, épousera finalement Boaz. C'est dans le très très beau livre de Ruth, qui est une histoire d'amour, de responsabilité, de sexualité, et qui dépasse ce tabou-là, puisque Ruth, venant de Moab, épouse Boaz. On va plus loin en disant que de leurs enfants naîtra l'ancêtre du Messie, c'est-à-dire l'ancêtre de la possibilité d'une réparation dans l'humanité. Donc c'est quelque chose de très beau, et si on fait ce passage...
Donc on dépasse les interdits...
Il y a des choses dans le passé...
De rencontre entre... le risque peut-être de... de quoi? De rencontre de demi-frères ou de demi-sœurs entre les descendants d'une branche et les descendants d'autre branche.
Donc on est de nombreuses générations après, et donc les descendants de Moab
pourront...
Peut-être pas génétique.
Mais en faisant ce
je voudrais reprendre l'histoire de
Daniel Sivoni.
L'histoire de la procréation. Il y a un épisode très joli qui est celui de Onan. Onan, c'est un des fils de Judas qui est. Il y a un verset d'ailleurs dans la Torah, qui m'intriguait enfant. Donc un enfant qui lit la Torah se trouve devant un verset comme celui-ci. Et voici que chaque fois que ça descendait, il les mettait vers le sol.
C'est... Moi, je crois que c'était un moment très précis où on lui demande d'avoir une relation sexuelle avec la femme de son frère qui vient
Bien
de mourir.
Sûr.
Et que c'est à ce moment-là qu'il préfère se masturber.
Non, il ne dit pas qu'il se masturbe, justement. Onanisme s'est greffé là-dessus. L'histoire d'Onan est très précise. Il doit épouser la veuve de son frère. Il est appelé à la féconder pour perpétuer une descendance à son frère. Et voilà qu'au moment des maîtres, il émet par terre. L'émission de sperme se fait par terre. Il n'y a pas question de masturbation. Ça veut dire que, en réalité, c'est au niveau de la dimension symbolique qu'il est dans la haine. Il ne veut pas une transmission de vie qui lui échapperait par le nom. C'est presque un petit meurtre du nom, ce qu'il opère. Et curieusement, on a pris ça pour de la masturbation.
Enfin, c'est-à-dire que ça a été ensuite assimilé au plaisir solitaire, ou bien, en tous les cas, à émettre une semence qui pourrait féconder, et à ne pas en faire en sorte qu'elle puisse féconder. Donc c'est une... C'est, enfin, la condamnation de la masturbation dans la religion juive, surtout chez les hommes, parce que chez les femmes, c'est un peu différent, il me semble. Il y avait une condamnation qui est beaucoup moins forte. Vient du manque à gagner en termes de possibilités d'enfants.
C'est là qu'il y a une distorsion. Parce que, encore une fois, onan, c'est pas la masturbation, c'est le refus d'émettre le sperme pour qu'il soit compté au nom du frère. Et vous savez, les traducteurs de la Bible ont fait beaucoup de bien parce qu'ils ont diffusé un beau texte, mais parfois c'est très idéologique. Quand vous prenez l'un des 10 commandements qui est qu'on traduit « tu ne commettras pas d'adultère », d'autres « tu ne te livreras pas à la fornication », d'autres « à la débauche », etc. Ce qui est dit, c'est beaucoup plus simple et plus précis que dans mes lectures bibliques, j'ai traduit par « pas d'amour sans amour ». Ça veut dire « ne t'engage pas dans le rapport sexuel si en dehors d'un lien ». Un lien minimal, c'est le lien d'amour. Même si c'est la recherche du pur plaisir, tu dois aimer suffisamment la personne avec qui tu as envie de chercher le plaisir, le pur plaisir.
Et c'est quelque chose
pas interdit.
Et c'est quelque chose qui est vraiment souligné dans la littérature rabbinique, qui est souligné également dans le Talmud. On voit un passage tout à fait intéressant dans le traité Brachot, où il y a Rav Kahana qui se cache sous le lit de Rav et qui l'espionne pendant qu'il a des relations d'intimité et d'amour avec sa femme. Et pire que ça, il lui fait même une remarque et il lui dit « Mais quel est l'appétit incroyable de Rav ? Quel est ton appétit incroyable ? C'est comme si tu avais été privé de sexualité pendant longtemps. » Et là-dessus, Rav proteste en disant « Mais ça ne se fait pas de se cacher sous le lit des gens. » Et Rav Kahana répond, c'est un enseignement très important et j'ai besoin de l'apprendre, j'ai besoin d'apprendre cet enseignement.
Il dit, je suis venu étudier la Torah.
Et ce que dit le texte, c'est que Rav était en train de jouer et de rire avec sa femme. Donc il y a l'humour juif, indissociable peut-être des relations d'intimité profondes qui sont dans le couple, avec cette relation d'amour dont vous parliez, Daniel Siboni, qui est totalement liée et qui vient compléter la partie physique de l'intimité sexuelle.
Il y a une autre chose qui est passionnante, c'est, vous remarquez que c'est ponctuel, il n'y a pas dans la Bible un personnage à qui s'identifier. C'est ça qui est très beau. Mais il y a des moments où chacun peut se retrouver. Regardez l'idée de la rencontre. Aujourd'hui, il y a une industrie de la rencontre. Il y a 10 ans, je crois que son chiffre d'affaires était de 50 milliards, c'est peut-être le double. Quand il y a une industrie, c'est que c'est sérieux. Parce que les gens ont un problème pour ce qui est de rencontrer la bonne personne. Eh bien, quand Abraham veut trouver une femme pour son fils Isaac, il envoie son serviteur dans son pays d'origine parce qu'il veut qu'elle vienne de là. Et le serviteur arrive, il arrête ses chameaux, enfin il se gare et il attend et il fait une prière qui est de toute beauté et qui tient en 4 mots. Il dit Adonai, c'est-à-dire le Dieu de mon maître Abraham, fais qu'il y ait de la rencontre pour moi aujourd'hui. C'est très beau. Ça veut dire qu'il y ait une rencontre sous le signe de cette filiation, de cette transmission, et évidemment sous le signe de l'amour. Et c'est confirmé quand la femme arrive en vue de Isaac, ce qui est dit, qui est aussi incroyable et qui a l'air anodin. Isaac l'a emmené dans sa tente et il s'est consolé de sa mère. C'est une incroyable sortie de l'Édipe. Ça veut dire, on nous dit en une ligne, il avait, comme tout le monde, l'attachement à sa mère qui bloquait tout. Et voilà que Rebecca arrive et il se console avec. Ça veut dire, il a traversé ce deuil.
Comme le dit également le début de la Genèse, quand on dit « c'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme et ne faire qu'une seule chair ». Vous posiez la question du plaisir dans la tradition juive, c'est à partir de ce verset qu'on considère qu'il y a un commandement de plaisir qui est affirmé et qui figure même, si on regarde dans l'acte de mariage, le mari promet l'épanouissement sexuel à sa femme, entre autres. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on souligne. Dans ce que dit Daniel Siboni, je voudrais souligner aussi autre chose qui est très important, c'est qu'à travers les histoires de la Bible, on permet d'évoquer de façon indirecte, mais quand même très forte, les questions de la relation à l'autre, de la relation homme-femme et de la sexualité. Et c'est une question que moi je me pose aujourd'hui. Comment faire en sorte que nos enfants puissent développer un imaginaire de la sexualité, une ouverture vers un plaisir qui est dans la relation à l'autre, avant d'être touché, comme c'est le cas de beaucoup d'enfants, on a les statistiques aujourd'hui, par quelque chose qui en est quand même très éloigné, qui est la pornographie. Donc dans la tradition juive, dans la Bible, mais aussi vraiment dans la suite de l'histoire, il n'y a pas de tabou du tout sur la sexualité, mais il y a la volonté de rester sur une sorte de ligne de crête qui respecte à la fois la pudeur, parce que c'est quelque chose de très intime et de très personnel, et d'un autre côté, le fait qu'il y ait un enseignement, une transmission, une liberté responsable autour de la sexualité.
Je reviens quand même à ma lecture, c'est-à-dire celle qui donne quand même des lignes rouges à ne pas dépasser. Alors, je parlais de l'inceste qui pourtant a été dépassé, en l'occurrence.
Mais ce n'est pas un exemple, hein.
C'est une réalité, donc il faut contrecarrer. Et d'ailleurs, des réalités, il y en a plein. Il y a aussi, bien sûr, les relations homosexuelles, par exemple, qui sont condamnées. Alors, aujourd'hui, on peut peut-être aborder la question différemment. C'est-à-dire, qu'est-ce que pense, par exemple, le mouvement libéral juif de l'homosexualité, par exemple? Je me tourne vers vous.
D'une façon générale, le judaïsme privilégie infiniment la relation à l'autre dans le respect, dans le cadre de la relation sexuelle, de telle sorte qu'il y a une pensée autour de la relation homosexuelle, au même titre que hétérosexuelle, autour de quelle est la relation à l'autre qui se met en place. Il y a des difficultés dans la Bible, il y a des volontés de les définir très très précisément. Le principe qu'il faut rappeler derrière ça, qui dépasse tous les autres principes dans toute l'histoire des décisions rabbiniques, c'est le respect de l'autre, ça s'appelle « kevod habriyot » en hébreu. Et quand on voit aussi quelle est la situation des homosexuels aujourd'hui, quelle humiliation il y a à la remise en cause permanente et à l'exposition et à la violence physique suite à leur identité sexuelle, la priorité des priorités au-dessus de toute autre considération est de tenir des propos qui justifient, qui confirment leur droit d'être là, le respect de leur réalité sexuelle et le respect des conditions de sécurité de base qui sont celles de chacun.
Merci. Daniel Siboni.
Ce qui est intéressant et encore une fois amusant, c'est que la Bible ne dit pas, n'interdit pas les rapports homosexuels. Elle dit, elle condamne celui qui a des rapports avec un homme comme avec une femme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appeler une femme un homme. Et ça, c'est très actuel aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'homosexualité ne pose plus, une fois les hypocrisies sociales ébranlées, une fois aussi la grande culpabilité envers les homosexuels persécutés, un peu affaiblis, le rapport homosexuel ne pose pas vraiment de problème, sauf à des gens qui ont mis des barrières pieuses. Je vous donne un exemple. On a parlé de Onan tout à l'heure, de éjaculer par terre. Il y a toute une littérature rabbinique sur le fait que celui-là est un saint, Jacob est un saint, parce qu'il n'a de toute sa vie jamais perdu une goutte de sperme. Donc, pas de perte de sperme. C'est, on dirait, une obsession pour la fécondité. Attention, il y a eu du sperme perdu. C'est contraire au commandement de se reproduire, etc. Et en fait, le rapport, l'érotisme anal, il n'est pas condamné. Et si des gens ont des rapports anaux, ce qui est condamné, c'est que ça tienne lieu de rapports sexuels avec l'autre sexe et que on puisse avoir des enfants qui appellent un homme maman et des enfants qui appellent une femme papa. Autrement dit, ce à quoi tient la Torah, ou plutôt l'esprit de la Torah. Parce que la Torah, et ça a été dit par Madame le Rabbin, et c'est la Torah, c'est tout et son contraire, parce que c'est la vie. C'était l'inceste avec Moab. On ne doit pas fricoter avec les gens de Moab, mais c'est eux qui vont produire le Messie. Donc, il y aura toujours de la contradiction. Mais en fait, souvent, on met de tels obstacles qu'après, le travail, c'est de les franchir. Il y a des gens qui croient mordicus que un homosexuel qui n'a pas trouvé moyen d'accéder à la femme et qui s'en est tenu au rapport avec l'homme, eh ben, c'est un grand pervers. Ça, c'est pas possible.
On va revenir sur cette thématique-là. Je vous rappelle juste un des passages du texte du Zohar où un père décède et on demande à ce que les garçons ne suivent pas le corps de près parce qu'il faut éveiller les autres fils. C'est-à-dire que le texte évoque les presque-nés de la semence perdue. Oui. En un mot, voilà, rapport sexuel, plaisir, procréation. On tourne autour quand même de cela et on va y revenir après avoir écouté Georges Brassens.
Ayant avec lui toujours fait bon ménage, j'eusse aimé célébrer sans être inconvenant. Tendre corps féminin, ton plus bel apanage, que tous ceux qui l'ont vu disent hallucinant. C'eût été mon ultime chant, mon chant du cygne, mon dernier billet doux, mon message d'adieu. Or, malheureusement, les mots qui le désignent le disputent à l'exécrable, à l'odieux. C'est la grande pitié de la langue française, c'est son talon d'Achille et c'est son déshonneur de n'offrir que des mots entachés de bassesse à cet incomparable instrument de bonheur. Alors que tant de fleurs ont des noms poétiques, tendre corps féminin, c'est fort malencontreux. Que ta fleur la plus douce et la plus érotique et la plus enivrante année de ciscabreux. Mais le pire de tous est un petit vocable de trois lettres, pas plus, familier, coutumier. Il est inexplicable, il est irrévocable. Honte à celui-là qui l'employa le premier. Honte.
France Culture, Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, donc une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Aujourd'hui, dans notre série Sexualité et spiritualité, nous abordons la question du judaïsme avec Daniel Siboni, philosophe, psychanalyste, écrivain et rabbin, Florian Chinsky, qui est également écrivain, et qui échangent tous les deux en un couple dynamique les questions de la sexualité dans le monde juif. Est-ce que les rapports entre hommes sexuels peuvent être valables si on ne considère pas l'autre homme comme une femme? Enfin, c'est ce que vous avez essayé d'aborder, Daniel Siboni, et je sens que Florian Chinsky a envie de commenter.
Oui, effectivement, parce que j'ai une certaine méfiance vis-à-vis de cette idée, hein, qui n'est pas forcément ce que vous disiez, mais que les hommes doivent être des hommes et que les femmes doivent être des femmes. Et j'avoue que sur cette question, j'ai une vision assez radicale, parce que j'aimerais pendant un siècle que les idées de masculin et de féminin soient mises entre parenthèses et on verrait à ce moment-là qu'est-ce qui émerge réellement en termes de la vraie identité féminine ou la vraie identité masculine. Et là, on pourrait avoir une idée réelle. Pour l'instant, je suis pas mal Simone de Beauvoir. On est sexuellement homme ou femme, ou pour certains avec des caractères sexuels ambigus, mais les qualités attendues des hommes et des femmes sont définies socialement aujourd'hui. Et dans la Torah, c'est pas si clair que ça. On a vraiment beaucoup de femmes qui sont fortes, qui parfois dirigent des armées. On a Tamar, on parlait de Onan, donc son épouse restée veuve va prendre des actes extrêmement actifs. Donc on a des femmes extrêmement actives dans la Torah et par la suite. L'interdiction de mélanger les hommes et les femmes, elle vient d'un verset de la Bible qui dit que les hommes et les femmes ne doivent pas se déguiser l'un en l'autre. Et Rashi commente et dit, ils ne doivent pas se déguiser l'un dans l'autre pour aller tromper les partenaires de l'autre sexe, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas se déguiser en femme pour entrer dans le vestiaire des filles, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez concret qui n'a pas nécessairement d'implication psychologique profonde sur ce que serait la nature de la femme. Après, il y a de nombreuses façons de lire la Torah. Tout est autorisé. La question aussi, c'est de savoir, dans la chaîne de la tradition juive, est-ce qu'on se rattache ou pas à la chaîne de la tradition juive? Mais le texte a également une portée universelle qui justifie que chacun s'autorise à en tirer le meilleur de sa propre pensée.
Daniel Siboni.
Vous savez, il n'y a pas de vraie identité, que ce soit pour l'homme, pour la femme, pour le rapport sexuel, pour toute chose. Il y a chez chacun, dans la rencontre, ou bien même en solitaire, il y a la quête d'un lieu d'existence possible. Et je pense que le rapport sexuel est un des moments où justement l'incertitude identitaire de chacun est mise en jeu et acceptée.
Nous sommes entièrement d'accord là-dessus.
Et ce rapport, ce n'est pas l'ajustage de deux sexes. Ce n'est pas l'ajustage d'un pénis et d'un vagin.
Non, vous sortez de la génitalité, ça c'est clair.
Ou d'un pénis.
Tous les deux d'ailleurs. Vous insistez sur la relation à l'autre.
Pas seulement, c'est que dans le rapport sexuel, chacun vient avec son manque à être et il faut que tous les deux arrivent à allumer ce que j'appelle le joint. Le joint, ce qui fait le joint entre les deux, n'appartient pas à l'homme. Il est porté par le pénis de l'homme, ça s'appelle une érection, mais ce joint, il s'allume par le partage du désir des deux, par la mise en jeu chez chacun de ce désir. C'est pourquoi je disais en aparté tout à l'heure, dommage qu'il n'ait pas été mentionné que la femme promet à l'homme, comme il promet à la femme, la satisfaction sexuelle, je m'explique, non pas la conformité à un programme érotique, mais le fait de s'engager dans le rapport sexuel en laissant de côté ses refus. Il y a les hommes qui deviennent impuissants parce que quelque chose en eux empêche l'allumage de ce joint qui fait le lien, qui est un tiers, qui est chargé symboliquement. Et il y a des femmes qui sont frigides ou qui sont simplement indifférentes et qui refusent à l'homme sans être méchante, cette jouissance sexuelle.
En même temps, c'est vrai qu'on se replace à l'époque d'une polygamie, à l'époque où l'homme, traditionnellement, je dirais, sa sexualité, sauf dans le Cantique des Cantiques, dont nous lirons un petit passage tout à l'heure, est vraiment dans l'explosion de ses besoins génitaux, et que quelque part, la considération qu'il doit porter à la femme n'est pas quelque chose de naturel. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas porter la même considération et donner le meilleur d'elle-même pour l'homme qu'elle aime. Mais on est, depuis tout le temps, et les mouvements autour de nous aujourd'hui sont toujours sur la place de la femme, la considération qu'elle doit avoir et ses droits. Et à ce sujet-là, j'aimerais que vous nous disiez, Florian Chinsky, comment vous voyez la place de la femme dans la religion juive et quelle est la place par rapport au plaisir ou au déplaisir.
Certainement, le contexte biblique, sans aucun doute, et vous le rappelez, est extrêmement patriarcal. Ça ne signifie pas forcément que la Bible le soit, loin de là. Et la position de Dieu, du personnage divin dans la Bible, est très souvent plus féministe que le contexte patriarcal dans lequel les héros et les héroïnes de la Bible évoluent. Et ensuite, quand on parle du Talmud que j'ai cité tout à l'heure, le contexte est également difficile pour les femmes, puisqu'on est dans un contexte philosophique hellénistique où la place des femmes est très très loin d'être égalitaire. Donc ça pose sans aucun doute un certain nombre de problèmes. Ce qui se passe dans le Talmud, c'est qu'en dépit de cette influence difficile et très restrictive, il y a la volonté de faire quand même une place aux femmes. Et quand on étudie le Talmud de façon précise, on voit par exemple que le passage qui est rapporté dans le Talmud sur le droit pour les femmes de lire dans la Torah, il dit: tout le monde monte au minyan, au compte des sept personnes qui montent à la Torah, y compris les femmes. Et il y a un ajout plus tardif qui dit: mais on ne fera pas monter une femme à la Torah en raison de l'honneur de la communauté. C'est-à-dire que ce serait un déshonneur pour une communauté dans une société hellénistique de donner à une femme une place qui pourrait être semblable ou équivalente à celle de l'homme. De la même façon, pour toutes les questions relatives plus directement à la sexualité, il y a un tournant plus tardif qui se fait autour du 15e siècle, où les prises de position rabbiniques sur ce qui est autorisé ou pas sexuellement devient beaucoup plus dur, sans doute aussi peut-être par absorption d'un certain héritage chrétien, d'un contexte chrétien où la sexualité est beaucoup plus déterminée, limitée et parfois taboue. La sexualité n'est pas tabou dans le judaïsme. Il est interdit de passer à côté d'un plaisir dans ce monde et de ne pas en profiter. C'est ce que dit le Talmud de Jérusalem et ce sur quoi insiste l'ensemble de la tradition juive.
C'est drôle parce que nous sommes dans une émission qui succède donc à l'approche musulmane et on retrouve toujours cette extrême rigueur des commentaires ultérieurs aux textes sacrés, que ce soit le Coran ou la Bible, qui est beaucoup plus ouvert et mérite aujourd'hui donc une réinterprétation ou en tout cas un rééclairage pour être peut-être plus en accord avec ce qui a été écrit et peut-être plus en rapport avec notre société. Cependant, dans la tradition juive, je vous posais la question de la place de la femme, il y a quand même une notion qui, moi, me révulse, c'est la notion d'impureté. La notion d'impureté, au moment des règles...
La notion de l'impureté n'est pas liée à une notion ni morale, ni de dénigrement de qui que ce soit. Et c'est pas exclusivement limité à la femme, pas du tout. En réalité, l'impureté, c'est le fait, ayant été en rapport avec la mort de façon directe, d'avoir vu nécessairement, on considère que c'est automatique, de voir son rapport à la vie perturbé, de telle sorte que si j'ai été proche de quelqu'un au moment de son décès, je ne suis pas en état de continuer comme si de rien n'était. Donc ce que demande la tradition juive, c'est de s'immerger dans de l'eau et d'en ressortir comme une renaissance. Il faut savoir que cette notion d'impureté était importante pour amener des offrandes au temple. Donc ça fait 2000 ans que la notion d'impureté qui empêcherait l'accomplissement d'actes spirituels ou rituels n'est plus d'actualité. Il y a parfois des petites choses très anecdotiques qui sont citées, dont certains font des grands développements, mais c'est extrêmement anecdotique. La seule question autour de la pureté et de l'impureté, disons la question autour des règles, revient à ce qu'on disait tout à l'heure en fait, qui est que la relation sexuelle est quelque chose de l'ordre de l'intime et du personnel et aussi de la relation à l'autre. Et donc la tradition juive considère que pendant la période des règles de la femme, le couple s'écarte, retrouve chacun ses marques à titre personnel et se donne rendez-vous pour revenir, comme au jour de leur mariage, à une rencontre, pour que la femme, nous dit le Talmud, soit aussi chère aux yeux de son mari que le jour de leur mariage, que ces retrouvailles permettent une renaissance du couple.
Daniel Siboni.
Et vous savez, enfin, mon point de vue, c'est plutôt d'essayer de comprendre et d'analyser ce qui se passe, compte tenu du fait que les gens, soyez tranquilles, n'en font qu'à leur tête et font ce qui les arrange. Mais curieusement, ils ont besoin parfois d'aller chercher de l'interdit, comme pour s'assurer qu'il existe, et après ils font vraiment ce qui leur convient. Alors cette histoire d'impureté, et cette séparation homme-femme, notamment dans les synagogues, ça m'a toujours intrigué. Si on cherche à la comprendre, c'est que les règles sont perçues comme le contact avec une mort, la mort de l'enfant qui aurait pu naître, c'est-à-dire la destruction d'une vie possible. Très bien. De là à considérer qu'il faut cette longue période d'abstinence pour que, etc. Après, on fait de l'idéologie, mais il y a l'obsession que la femme qui a ses règles est porteuse d'une trace qui la rend impure, non pas parce qu'elle-même est impure ou parce qu'elle fait quelque chose d'impur, mais parce qu'elle est traversée par cette suppression de la vie. Est-ce que ça justifie qu'à la fin de Kippour, dans des synagogues, les hommes et les femmes ne puissent pas se retrouver un instant pour se bénir, s'embrasser, etc. Moi, je pense que non. Et qu'il n'y a pas besoin de fonder une nouvelle tendance religieuse pour que ce soit possible. Mais là, ça renvoie au fait que les gens ont besoin d'interdits très violents. Le monde chrétien a besoin des interdits du pape, justement parce qu'ils sont absurdes, et que ça satisfait un besoin d'interdits.
Florian Chinsky, le mot de la fin.
Oui, pour dire que dans nos synagogues, heureusement, les hommes et les femmes s'asseyent ensemble, qu'il y a ce partenariat qui relève évidemment de la nécessité d'être ensemble en termes familial, parce que tout n'est pas sexualisé en permanence et on peut être assis ensemble et tourner un homme et une femme ensemble vers le renouvellement de l'adhésion aux valeurs qui nous animent. S'il y a un mot à dire, en fin de compte, ce que je dirais, c'est que se mettre à soi-même des limitations absolues sur le plaisir, c'est risquer de les imposer également aux autres, et qu'en fin de compte, ce que dirait à mes yeux la tradition juive, c'est que chacun est en charge de ses besoins et de ses besoins relationnels, et qu'il y a un cadre dans lequel cette liberté de chacun doit pouvoir s'exprimer.
Alors laissez-moi vous lire, pour terminer, quelques parties d'un poème célèbre, le Cantique des Cantiques. « Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment, entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs, et ton nez comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. » Merci à vous deux d'être venus donc pour parler de la sexualité et spiritualité vue du judaïsme. Cette émission a été rendue possible grâce à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Dany Journeau, Nino Lima, Pierre Monteil. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site internet franceculture.fr, les réécouter autant que vous souhaitez. Demain, vous aurez le quatrième volet de notre série. Nous parlerons avec Daniel Audier et Françoise Bonnardel du bouddhisme, d'hindouisme et surtout de tantrisme. À demain.